sous les couvercles, la good food.
La gourmandise, Carlo, un concept qui nous est cher ici à Bientôt à Table. Un mot doux, rond, un mot de table, un mot de plaisir, mais aussi un mot chargé d'histoire, de morale, de spiritualité, de normes et d'excès. Alors pour éclairer ce terroir très sensible où se croisent la tentation d'Ève, les interdits du Moyen-Âge, le raffinement moderne et toutes les injonctions contemporaines, eh bien nous avons la joie d'accueillir ce matin un philosophe pour qui vivre est déjà penser et pour qui manger est une manière d'habiter le monde avec nous, Valentin Husson. Bonjour Valentin.
Bonjour Sophie.
Vous êtes un habitué de l'émission, vous êtes philosophe, auteur de ce très beau livre intitulé « L'art des vivres » publié aux éditions Presse universitaire de France, un ouvrage qui explore la manière dont l'alimentation est loin d'être un simple geste biologique, ça devient même une forme d'existence, un art de se tenir dans le monde, d'y goûter, d'y résister. Alors ce matin, pour cette dernière émission de l'année, Valentin, on va interroger la gourmandise dans toute sa splendeur. Et on va démarrer par les origines. Logique, la gourmandise et les sept péchés capitaux. L'acte alimentaire, Valentin Husson, figure inaugurale du péché, du désir, et c'est pour notre pomme.
Oui, absolument. La gourmandise a été classée immédiatement par la religion comme étant un péché capital et peut-être le péché le plus capital, si je puis dire, au sens où Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, confrontés à l'arbre de la connaissance, interdit d'y goûter, Ève succombe à la tentation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que le péché originel, celui qui va faire que Adam et Ève vont être mis, si je puis dire, à la porte du jardin d'Éden, c'est à partir d'un fruit. Cette tentation première, c'est un fruit qui n'est pas spécifié comme étant une pomme. C'est dans la tradition latine qu'on parle de pomme pour faire un petit jeu de mots, parce que malum en latin, c'est à la fois la pomme et c'est à la fois le mal. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui est considéré dans notre histoire occidentale comme étant le péché premier, c'est justement la gourmandise ou l'alimentation.
Mais c'est vrai qu'au fil de l'histoire, Valentin Husson, de l'histoire religieuse, il y a évidemment eu énormément d'écrits autour de cette gloutonnerie, de ce péché capital. On entend et on lit souvent « si tu ne maîtrises pas ton ventre, tu ne maîtrises pas le reste ». De nombreux auteurs, philosophes se sont intéressés. Augustin, saint Augustin parle de concupiscence. C'est quoi la concupiscence? C'est la tendance du désir à se dérégler. C'est ça l'idée?
La concupiscence, lui, est totalement proscrite et condamnée par le christianisme. Ça va de saint Augustin jusqu'à Pascal, hein, qui ne s'en fait pas une grande idée. La concupiscence, c'est véritablement les plaisirs de la chair, sexuels bien sûr, mais certainement aussi ceux qui se rapportent à la tentation alimentaire. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de différence dans la condamnation religieuse de la gourmandise et de la sexualité. Je crois que ce qui les rapproche, c'est toujours la question de la chair, du corps, et par conséquent de la sensualité. Si vous voulez, la religion, mais pas plus que la philosophie, ne sont des discours sensualistes. Il y a une méfiance à l'égard de cette sensualité. Vous imaginez bien qu'on ne structure pas une communauté de croyants, une communauté disciplinée autour des abus sexuels. J'ajoute à cela que si on prend la Bible, l'Ancien Testament nommément, le feu qui s'abat, la colère de Dieu qui s'abat sur Sodome et Gomorre, c'est pour condamner les abus sexuels et certaines déviances sexuelles, l'homosexualité bien sûr. Elle n'est pas précisée dans le texte, c'est véritablement le dérèglement des sens, comme dirait Rimbaud, qui est ici condamné. Donc la sensualité, le péché de chair, tout cela est une sorte de métonymie ou de métaphore de la gourmandise qui est le péché capital, le premier et fondateur.
Et pourtant, Valentin Husson, si on fait un petit panorama des religions 2000 ans après, on s'aperçoit que même chez les chrétiens, il y a, comment dire, une tolérance différente à la concupiscence alimentaire. Je pense aux protestants, aux luthériens d'un côté, hein, on se souviendra du festin de Babette, et où il ne fallait pas commenter ce que l'on mangeait, parce que déjà le fait de dire que c'était bon, c'était un péché. Et le monde plutôt catholique, où c'est vrai qu'il y a des moments de maigre, mais quand c'est gras, on y va.
C'est vrai que Max Weber disait que l'éthique protestante était celle de l'ascétisme, et dans un livre célèbre qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », il va même jusqu'à dire que c'est le protestantisme qui fait naître le capitalisme. Donc c'est vrai que le protestantisme, c'est un ascétisme assez radical. L'ascétisme, c'est quoi? C'est une privation du corps, et c'est une privation du corps pour l'élévation de l'esprit. Le catholicisme, en effet, c'est assez différent. Si vous prenez la question de l'Eucharistie, on va à la messe le dimanche et puis le sang du Christ, ça devient le vin et le corps du Christ, ça devient le pain. Si vous voulez, avant même la crucifixion du Christ, il y a ce qu'on appelle la scène, c'est-à-dire que Jésus-Christ est réuni avec ses 12 apôtres. Alors, je ne dirais pas non plus qu'ils font bonbons et qu'ils font ripaille, mais en tous les cas, la convivialité est quelque chose dans le catholicisme qui, à mon avis, est beaucoup plus important que dans le protestantisme. Le protestantisme, c'est une religion individualiste. Je rappelle que la rupture entre le catholicisme et le protestantisme, c'est notamment sur la lecture des textes. Dans le catholicisme, c'est l'Église qui donne le sens et la vérité du texte. Dans le protestantisme, c'est le lecteur face à son texte qui en donne la vérité. Donc, individualisme du protestantisme. Et donc, ça n'invite pas à la gourmandise. On sait très bien qu'on fait ripaille avec les copains ou les copines, mais certainement pas seul devant son assiette. Et le catholicisme, c'est quelque chose qui a rapport avec la communauté. Et donc, ça invite davantage à la convivialité.
Alors, si on doit revenir aux grands noms qui sont intéressés, qui ont écrit autour de la gourmandise, il y a évidemment Saint-Augustin. La gourmandise, pour lui, est un symptôme du désordre intérieur. Dans ses confessions, il distingue d'ailleurs la nécessité vitale de manger, le plaisir légitime et la dérive vers une jouissance autonome. En fait, ce qui lui pose problème, c'est vraiment le plaisir. Pour parler de Saint-Thomas d'Aquin, qui est aussi aujourd'hui une référence lorsque l'on évoque le péché de gourmandise, il dit « La gourmandise n'est pas le plus grave des péchés, cependant elle est dangereuse car elle affaiblit la raison. » Mais là où je voudrais en revenir à ce que Carlo disait, c'est finalement ce gap qui existe entre l'idée que le péché, c'est la gourmandise, et par exemple dans le christianisme, il y a aussi l'idée du repas comme un lieu de grâce, de fraternité, de présence, parce qu'il le met aussi en avant, ce repas, dans cette religion.
Oui, absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je fais souvent la blague avec les copains. Je dis, quand j'ai une décision importante à prendre, je pense à ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place et je me retrouve toujours avec 12 copains autour d'une table à boire du vin. Donc, il y a quelque chose, en effet, il y a quelque chose, en effet, de joyeux dans le christianisme et dans lequel, je dirais pas le glouton, je dirais pas l'ivrogne, mais je dirais que le bon vivant peut s'y retrouver. Écoutez, il y a quand même quelque chose de très charmant à quelqu'un qui, lorsqu'il n'y a plus de vin, transforme l'eau en vin, lorsqu'il n'y a plus de pain, multiplie les pains, et certainement pour faire marrer les copains, leur fait croire qu'il marche sur l'eau. Donc il y a quelque chose, oui, il y a dans le christianisme quelque chose d'une communion. D'ailleurs, c'est le terme que des chrétiens emploient, j'y pense là, mais c'est un bon terme. La communion, elle est du côté d'une certaine convivialité. Je ne dis pas que c'est la grande bouffe non plus,
c'est ça, c'est un peu
mais
l'idée.
Il y a un partage.
Oui, c'est un peu l'idée du repas juste où la nourriture serait le symbole d'une union et non d'une appropriation, d'une gloutonnerie liée à un plaisir de jouissance, quoi. C'est un petit peu ça l'idée.
C'est la question du partage, mais ça, on le retrouve dans tous les monothéismes, on le retrouve dans le judaïsme, on le retrouve dans l'islam. Nourrir la faim de l'autre, lui donner à manger, est un des piliers, comme on dit en islam, qu'il y a de plus important pour le croyant.
Et puis il y a l'idée aussi de l'abondance qui est ritualisée, donc elle est maîtrisée à nouveau. Mais je voudrais qu'on évoque aussi un point, et je pense que ça va aussi intéresser Carlo, parce qu'on en parle souvent dans l'émission, c'est le jeûne. Dans la tradition religieuse, est-ce qu'il peut être considéré comme l'inverse de la gourmandise, une espèce de rééquilibre obligé?
Oui, alors le jeûne, c'est le miroir de la gourmandise. Et en ce sens-là, la gourmandise est le miroir de l'ascétisme. En effet, quand on a communié, quand on a partagé comme le Christ durant la scène, il y a aussi une période qui s'impose de jeûne. Il y a par exemple, alors en islam, il y a le ramadan naturellement, mais dans le christianisme, il y a le carême.
Oui.
Alors je ne sais pas s'il est encore beaucoup observé dans la communauté chrétienne, mais le carême est aussi une période où il y a une certaine frugalité, où la gourmandise cède le pas à cette frugalité. Et le jeûne vient contrebalancer en effet cette gourmandise, mais le jeûne revient aujourd'hui. C'est quelque chose qui revient à la mode et
oui,
c'est très intéressant.
Dans l'usage profane plutôt, quand on fait le jeûne intermittent, c'est une idée aussi de reprendre cette logique de contrôle du cerveau quelque part, sur nos corps, sur nos désirs, non?
Oui, absolument. Le jeûne, c'est ce qui vient permettre la reprise du pouvoir sur son corps. On maîtrise à nouveau son corps, on maîtrise à nouveau son estomac. C'est vrai que sur les réseaux, on est abreuvé de contenu extrêmement gourmand et on est aussi dans un monde où l'abondance alimentaire nous sature certainement. On est saturé par les images d'aliments et de choses gourmandes sur nos écrans et aussi on est saturé par l'abondance des supermarchés. Il y a quelque chose. pardon, mais il y a quelque chose d'un peu, c'est peut-être un mot fort, mais d'un peu dégoûtant, et le jeûne vient peut-être rééquilibrer, vient se réapproprier un corps qui se sent un peu dépendant au monde et qui affirme à nouveau sa souveraineté.
C'est une sorte de réponse au trop de la société, tout ça peut-être ?
Oui, je crois que c'est une réponse au trop de la société. Comme je le disais, l'abondance est partout et on a envie d'entrer en régime par rapport à cette abondance-là, de la contrôler. En effet, moi, je ne fais pas de parallèle ou je ne fais pas une équivalence entre quelqu'un qui voudrait se réapproprier son corps à titre individuel, mieux manger, se sentir, peut-être, ressentir un peu le vide en soi pour mieux se remplir. C'est un peu ça la question du régime aussi. On a envie aussi de se purifier de l'intérieur, de ressentir un peu le vide dans la société du trop-plein. Et naturellement, la religion a un côté qui est un contrôle, une coercition sur les corps d'un point de vue politique. Je ne l'arrange pas du tout du côté de cette diététique ou de cette éthique, de cette construction de soi.
Valentin Husson, je rappelle que vous êtes philosophe, on vous doit un ouvrage « L'art des vivres » dans lequel vous repensez notre rapport à la nourriture et notre rapport au monde au final. Mais est-ce que les philosophes se sont beaucoup intéressés à la gourmandise, à l'acte de manger ? Était-ce bien considéré ou au contraire pas du tout ?
Alors les philosophes, non, la gourmandise, c'est pas la chose qui les intéresse le plus. Ils préfèrent, comme je le dis souvent, les nourritures célestes aux nourritures terrestres. Et quand bien même vous avez un philosophe qui s'appelle Épicure, dont a été tiré un nom et un adjectif qui est épicurien, l'épicurien c'est celui qui prend plaisir, qui se réjouit au plaisir de la table. Épicure c'est quelqu'un en effet qui dit, et ça peut être totalement trompeur sur le sens de sa philosophie, il dit le plaisir est le commencement et la fin de toute vie. On se dit c'est formidable, c'est réjouissant, alors quels sont ces plaisirs ? Nous sommes aussi des bons vivants, on va entrer dans la danse. Et puis on commence à lire Épicure, son petit livre qui s'appelle La lettre à Ménécée, et on se rend compte que pour lui les plaisirs c'est les besoins naturels et nécessaires. Et les besoins naturels et nécessaires, c'est un morceau de pain, c'est un verre d'eau.
C'est ça, manger pour vivre.
Absolument. Ouais, c'est ça. Et non pas vivre pour manger, un peu comme nous, Sophie et Carlo, je le sais.
Mais donc, si je vous suis bien, Valentin Husson, c'est un contresens historique flagrant quand on parle de « je suis un épicurien » parce qu'il était tout le contraire. Il prenait finalement une espèce de tranquillité de l'âme par, je dirais presque, le pain et l'eau, quoi.
Absolument, je le dis souvent, Épicure, c'est davantage Koh-Lanta que la grande bouffe. Mais attendez, il y a quelque chose de très réjouissant chez Épicure. Oui. Vraiment, dans les circonstances exceptionnelles, vous pouvez prendre un petit laitage.
Ah, voilà. C'est bien. Voilà. Mais vous voyez comme
voilà,
quoi. Mais...
Voilà,
un yaourt maigre.
Donc, Épicure n'est pas vraiment Épicure.
Mais il faudrait quand même qu'on m'explique pourquoi son nom est devenu emblématique de notre gloutonnerie et de notre appétence de la nourriture. Pour Aristote, lui, il oppose la tempérance à la gourmandise. Il dit même il y a deux types de sens, les sens à distance et les sens de contact. Donc, ça veut dire que pour lui, le goût, le toucher sont des sens inférieurs. Est-ce que c'est ça l'idée chez lui ?
Oui, alors le toucher pour lui est quand même surévalué par rapport aux autres. Mais alors s'il y a bien deux goûts qui sont pour Aristote totalement subalternes et infériorisés, c'est bien le goût et l'odorat. Il n'y a pas de philosophie du goût, il n'y a pas de philosophie de l'odorat ou quasiment pas dans notre histoire occidentale. Et notamment parce que, pour une raison très simple, la philosophie, c'est pour ça qu'elle revient, alors sous une forme un petit peu curieuse, qui est celle du développement personnel, qui est de la très mauvaise philosophie, mais qui reprend le message philosophique, qui est celui de la maîtrise de soi-même, du contrôle sur soi. La raison doit contrôler au ventre et au bas-ventre, le cerveau doit contrôler la gourmandise, et c'est dans ce sens-là que les philosophes sont du côté de la tempérance et de l'intempérance. Socrate dit « rien de trop ». Surtout rien de trop, la mesure et le sage, c'est celui qui est mesuré.
Ils ne sont pas drôles, ainsi philosophe. Pour Kant, le sujet mangeant ne pouvait accéder à une véritable connaissance du monde comestible. Mais dites-moi, il y a quand même eu des philosophes un petit peu plus fun, je pense déjà à vous maintenant. Non, aujourd'hui, il y a Charles Fourier, Rousseau, Voltaire quand même était quand même plus à l'aise avec le rapport de la nourriture, avec la gourmandise.
Voltaire, oui, Rousseau également.
Montaigne, peut-être ?
Montaigne aussi. Oui. Alors Montaigne ne refusait pas du bon vin rouge, il ne refusait pas de bien manger.
Puis voilà, il s'appelait Ikem de Montaigne quand même. Donc...
Oui, pas mal. Pas mal. On aurait c'est bien aimé avoir rapport. Des amis comme ça.
Oui, voilà. C'est bien.
Mais dites-moi, Valentin Husson, à partir de quand ce vice spirituel, cette gourmandise, va-t-elle devenir une qualité, j'allais dire esthétique, un acte social presque vertueux, tel que nous le considérons peut-être aujourd'hui quand on est gourmand, comme toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui dans Bientôt à Table.
Eh bien, justement, alors on peut dire finalement avec Rabelais, mais Rabelais réagit à quelque chose justement de l'Église. Les romans rabelaisiens, Pantagruel, Gargantua, c'est une réaction à la coercition des corps de l'Église, aussi l'hypocrisie de l'Église, parce que on a beau prôner dans l'Église l'ascétisme, on sait très bien que le clergé faisait bombance et qu'elle ne s'appliquait pas les principes qu'elle donnait aux autres. Donc c'est une réaction chez Rabelais à cette Église un petit peu hypocrite, et il vient surévaluer, il vient donner une entente positive à la gourmandise. Donc on peut dire à partir de Rabelais, et puis certainement à partir du moment où la sensualité ou le libertinage vient faire intrusion dans notre histoire. Mais c'est une chose assez récente, hein. Ça doit arriver au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans sa version telle qu'on la connaît.
Valentin Husson, lorsqu'on a préparé cette émission, vous me disiez, il y a quand même un point de bascule aujourd'hui. Vous me disiez, finalement, la diététique, le fitness, le bien-être ont quelque part remplacé la religion dans notre rapport au corps, dans notre rapport à la gourmandise. C'est à ce point-là ?
Ah oui, je pense qu'on n'est pas du tout sorti de la religion. Je disais tout à l'heure à Carlo que l'esprit du capitalisme, c'était l'éthique protestante. Et regardez un petit peu les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont inventé le fast-food. Et le temps doit être sans cesse productif. Benjamin Franklin disait le temps, c'est de l'argent. Time is money. Par conséquent, il ne faut pas perdre, comme chez nous autres Européens, Belges, Français, Italiens, Espagnols, nous prenons beaucoup de temps pour manger. Mais l'esprit capitaliste qui vient de l'éthique protestante, c'est on ne perd aucun temps à table parce qu'il faut produire de l'argent. Alors aujourd'hui, en effet, puisque c'est ça votre question, Sophie, la diététique, le fitness, a remplacé pour une part la religion. C'est une théologie sans Dieu, la diététique, mais non sans culpabilité, on pourrait dire.
Ah, oui.
Parce que si vous voulez, moi je suis toujours impressionné par les joggeurs, par les coureurs à pied. Quand je les vois passer dans la rue, je me demande après quoi courent-ils. Et je ne peux pas, d'un point de vue psychanalytique, ne pas penser qu'ils courent après leur culpabilité.
C'est joliment dit.
Je veux dire par là, il y aura une augmentation drastique après les fêtes de nombre de joggeurs, si vous voulez.
Oui, c'est vrai.
On s'est fait exploser le ventre, et puis après on court après sa culpabilité. Voilà. Donc, le fitness, oui, ça. Si vous voulez, on n'est pas sorti de la religion, on a changé de liturgie, si vous voulez. Les calories ont remplacé les péchés, les coachs ont remplacé les prêtres, et les balances ont remplacé les confessions.
Mais c'est très intéressant l'analogie que vous faites. Mais c'est, je suis surpris, en effet, de l'intérêt de nos concitoyens, de nos contemporains, pour des sports ennuyeux. Vous avez cité le jogging, on pourrait y ajouter le crossfit et
d'aller... Mais c'est ennuyeux pour vous, peut-être pas pour eux.
Non, c'est ennuyeux, point. L'homme est comme le chien, il a besoin de jeu et de gourmandise. Un chien que vous faites jouer à qui vous apprenez des trucs, il est très fatigué à la fin de la journée et il est content. Eh bien nous, c'est la même chose. Le sport a du sens, selon moi, s'il est assorti de la gourmandise du plaisir. C'est-à-dire s'il a un impact technique, que ce soit le golf, le football ou le bilboquet. On peut faire la même comparaison. Dès qu'il y a un enjeu de performance technique, c'est-à-dire de performance d'adresse et d'agilité, nos cerveaux se réveillent. Ouais. Et finalement, la gourmandise, ça pourrait être ça aussi. Ce n'est pas juste, parce que sinon, c'est le fast-food. Et c'est bon aussi, de temps en temps. Mais c'est ça, c'est le côté un petit peu du plaisir qui est le plaisir aussi de préparer quelque chose qui va réjouir le voisin. Mais tout est dans tout, mais n'ayons pas peur de jouer. Qu'en pense le philosophe ?
Moi, je suis totalement d'accord. Je crois que cuisiner, c'est prendre plaisir à faire plaisir aux autres. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus réjouissant que de se mettre derrière les fourneaux. Alors, il y a déjà une réjouissance personnelle parce qu'il y a quelque chose de très sensuel. Moi, je le crois, à couper ses carottes, à faire revenir sa viande. Donc, il y a un plaisir personnel qui est un plaisir de l'adresse. Vous l'avez dit, Carlo, par rapport au sport, mais la cuisine est un artisanat, je crois même un art. Il y a ce plaisir individuel de faire la cuisine, et il y a aussi le plaisir, en effet, de recevoir des convives, de les réjouir, de réjouir leurs pens avec ce qu'on a fait à manger. Et en effet, le plaisir des autres, le plaisir qu'on veut donner aux autres, il n'est absolument pas contradictoire avec le plaisir que l'on prend à faire plaisir, si l'on veut.
En préparant cette émission, je tombais sur un écrit du sociologue Claude Fischler qui parlait du paradoxe de l'omnivore. Il écrit « Plus le choix est vaste, plus l'anxiété augmente ». Et il dit qu'il y a finalement trois pans qui structurent tout ça. C'est l'abondance créée par l'industrie agroalimentaire, l'injonction sanitaire, la santé, la performance dont on vient de parler, la minceur, et l'hypervisibilité du corps sur les réseaux sociaux. Finalement, on vit entre deux tyrannies, le plaisir permanent et le contrôle permanent. Et donc là, c'est là qu'interviennent la culpabilité, l'idée à nouveau du péché de gourmandise. Mais moi, j'ai envie de vous demander, Valentin Husson, dans cette société très numérisée, très dématérialisée, est-ce que la gourmandise peut être un antidote, une manière de revenir au corps, à la sensualité, au monde, quelque part ?
Ah, mais bien sûr. Je crois je le disais tout à l'heure, on sature du numérique. Nous sommes sans cesse sur les écrans. Enfin, je crois que les statistiques sont absolument accablantes pour nous autres humains. On est entre 5 heures et 7 heures en Asie, c'est 9 heures par jour sur nos écrans. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment délirant dans cette manière dont nous refusons de vivre au monde, de vivre à propos avec le monde. Et en ce sens-là, vraiment, la gourmandise, c'est pas possible de, comment dirais-je, d'y céder sur un écran. On peut faire du lèche-vitrine, on peut faire du lèche-écran si vous voulez, mais enfin, c'est quand même mieux de lécher une glace véritablement.
Ouais, c'est ça.
Et je crois que, bah oui, mais on peut pas, absolument, on peut pas manger sur notre écran, on peut pas manger sur le web. Et donc, la gourmandise, je crois, ça engage le corps tout entier, ça engage le temps long, ça engage la présence à l'autre, ça nécessite de cesser d'être sur son téléphone portable. Alors, on y est tous, mais c'est quand même très... C'est agaçant, par exemple, quand on déjeune ou qu'on dîne, si on a quelqu'un en face de soi qui est sans cesse. Alors, bien sûr, on peut vérifier ses appels, ses messages et prendre une photo de son plat, j'adore aussi. Mais quelqu'un qui serait sans cesse sur son téléphone, on a l'impression qu'il y a une négation de notre existence. Donc, la gourmandise, c'est une manière d'être relié à la chair du monde.
Oui, à la joie, finalement, à notre joie intérieure, à la joie d'être avec les autres. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la gourmandise n'est plus un péché, c'est presque un humanisme.
Ah, la gourmandise est un humanisme. Et même si on considère que la gourmandise est un vice, alors désormais, il faudrait penser que vicieux est un terme extrêmement amélioratif et quasiment un titre de noblesse.
C'est ça. En tous les cas, merci Valentin Husson pour ce joli partage de fin d'année. C'était important de nous intéresser à ce concept de gourmandise qui nous tenaille chaque semaine, chaque jour, Carlo, dans nos existences.
Pour donc, moi, il est vice moins le quart.
Oh, elle est bonne. Et si on a envie de vous lire, ça se passe dans cet ouvrage, L'art des vivres. C'est succulent. C'est publié aux éditions Presse Universitaire de France. Valentin, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, santé, bonheur et beaucoup de gourmandise.
Bonne année, Valentin.
Santé, Sophie. Santé, Carlo. Et joie dans votre cœur.
Évidemment, à suivre, Carlo. Quelques belles adresses sélectionnées par le guide du fooding. Les adresses 2025 et 2026 à tester de toute urgence.
11h midi, bientôt à table sur la première,
avec Sophie Mounce.